Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le problème, c'est tous ces risques qui ont été pris avec de l'argent gratuit. On sait bien que quand l'argent est gratuit, on peut faire que des bêtises.
Ils sont nombreux à nous prédire une nouvelle crise financière. Et le pire dans l'histoire, c'est que rien ne vient leur donner tort, tant on a l'impression qu'aucune leçon n'a été tirée de la crise des subprimes de 2007-2008. La finance n'a pas gagné en vertu, les liquidités coulent à flot sans irriguer l'économie réelle, les produits financiers ont continué d'innover, et là il faut comprendre qu'innovation, ça finit forcément par rimer avec poison. Dans ce domaine, il est facile de se cacher derrière des mots et des concepts complexes. Et pour saisir les dangers qui nous menacent, il faut comprendre les mécanismes en cours. Pas simple. Jean-Michel Nolot est un ex-banquier et ancien membre de l'Autorité de régulation des marchés. Il alerte depuis longtemps sur les risques d'une nouvelle crise. On lui a demandé de nous expliquer la situation le plus simplement possible. Ça dure un peu plus de 5 minutes, faut s'accrocher par moments, ça fait un peu peur sur ce qui nous attend, mais ça vaut le coup. Commençons par une petite leçon d'histoire récente.
Je crois que pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2008, il faut revenir encore un petit peu plus en arrière, aux 15-20 années qui ont précédé, en fait au milieu des années 85. C'est une période où, j'allais dire dans les pas de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, mais c'est un mouvement extrêmement large qui est parti des pays anglo-saxons. On a considéré à cette époque-là... vraiment d'une manière, dans une rupture avec ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. On a considéré qu'en faisant tomber toutes les règles, pas simplement dans le domaine de la finance, mais particulièrement dans le domaine de la finance, on allait doper la croissance. Et en réalité, passé un moment effectivement où on s'est un petit peu enivré, on a cru que c'est une théorie qui allait marcher. En réalité, on a généré toute une série de crises financières tout au long des années 90 et sont arrivées ensuite les grandes crises, celles de 2000-2001 jusqu'à 2003, ensuite celle de 2007. Et on a renoué avec une période très fâcheuse qu'on avait connue pendant les années 1920, en réalité, qui sont également des années d'euphorie sur les marchés financiers, où les banques centrales ne font pas leur travail correctement et où ça se traduit par l'éclatement d'une grande bulle financière.
La question qui se pose, c'est de savoir si on a bien digéré la crise de 2008 et si on en a tiré toutes les leçons. A-t-on pris les mesures qui s'imposaient? A-t-on changé le dogme qui nous a conduit à cette crise très grave? Bref, a-t-on même cherché à changer de logiciel?
Moi, j'ai l'occasion de participer à des réunions avec toutes sortes de gens et des citoyens qui ne connaissent pas forcément les mécanismes de la finance, qui les connaissent de très loin. Je peux vous dire qu'ils ont toujours le sentiment d'être en pleine crise de 2008. Parce qu'ils en subissent les conséquences. En revanche, quand on regarde ce qui se passe du côté du monde politique, il y a très longtemps qu'ils ont oublié cette période. En fait, les dirigeants politiques, dès que les marchés financiers sont repartis à la hausse, ils sont désintéressés de ce qui venait de se passer. Ce qui est catastrophique depuis 20 ans, c'est que on a fait, comme je vous le disais, sauter un certain nombre de règles très importantes. On a développé l'innovation financière d'une manière totalement excessive. On a, n'oublions pas, au milieu des années 80 aussi, libéralisé complètement les mouvements de capitaux. D'ailleurs, quand on parle des paradis fiscaux aujourd'hui, ça nous renvoie à ce dogme de la liberté complète de circulation des capitaux. Donc, à partir de 2008... Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une prise de conscience, mais en réalité, ça a été très, très, très éphémère. Et on constate depuis qu'il est extrêmement difficile de revenir sur les décisions antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en 2008 Il y a eu un instant extraordinaire qui était le G20 de Londres en avril 2009. Moi, j'avais presque appris par cœur le communiqué du G20, qui faisait tout de même plusieurs pages, parce que je trouvais que c'était une feuille de route extraordinaire. Et comme régulateur, moi, j'ai constaté que sur tous les chantiers, une dizaine de chantiers qui avaient été évoqués, on s'est arrêté en chemin, alors qu'on aurait très bien pu aller jusqu'au bout du chemin. En réalité, ce sont des réformes qui sont, et je dis ça très sérieusement, ce sont des réformes qui sont faciles à faire.
Alors là, c'est quand même grave. Il y aurait eu des choses simples à faire pour empêcher de nouvelles secousses sismiques financières, mais ces idées seraient restées dans les cartons, un peu gênant. J'ai demandé à Jean-Michel Nolot des exemples de ce qui aurait pu être fait. Et il m'a répondu « fonds spéculatifs et produits d'arrivée, deux symptômes connus de la finance folle ».
Les fonds spéculatifs, jusqu'à la crise de 2008, les régulateurs ne les connaissaient pas, ils les ignoraient, il n'y avait pas de... Vous vouliez lancer un fonds spéculatif, il n'y avait pas besoin d'aller voir le régulateur. Depuis 2008, eh bien, on les enregistre, comme on dit, c'est-à-dire qu'on connaît les gérants. Les fonds sont tous, sans exception, dans les paradis fiscaux, tous. Il y aurait une mesure simple à prendre. Moi, j'en ai discuté à l'époque, dès 2010, avec le rapporteur au Parlement européen. Nous étions d'accord pour dire qu'une mesure simple, ce serait de limiter l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est que l'effet de levier ? Ça veut dire qu'un fonds qui gère 100 millions, du fait des positions spéculatives qu'il prend dans les marchés, eh bien, au lieu de peser 100 millions, il peut peser 10, 20, 30, 100 fois plus. Bon. Du fait qu'il achète des produits, ce qu'on appelle des produits dérivés, qu'il s'endette beaucoup, etc., etc. Et tout ceci est difficile à contrôler puisqu'ils sont dans les fonds sont dans les paradis fiscaux. Les gérants sont à Londres ou à New York, les fonds sont dans les paradis fiscaux. Donc, on aurait pu prendre cette mesure, on ne l'a pas fait. Je vais prendre un autre exemple. Les produits dérivés. Produits dérivés, vous savez, l'investisseur américain Warren Buffett disait que c'est déjà au début des années 2000 que c'était des armes de destruction massive. Les volumes de produits dérivés n'ont pas bougé depuis la dernière crise de 2008. Il y a des moyens simples pour corriger, c'est tout simplement, par exemple, de le rendre plus coûteux. Le simple fait de rendre ces produits dérivés plus coûteux, eh bien, ça visait à réduire les volumes. Bon, les banquiers le savaient bien, c'est pour ça qu'ils se sont battus avec les gouverneurs de banques centrales, ce qui est là pour le coup beaucoup plus choquant, ils se sont battus contre cette réforme. La réforme a été abandonnée il y a 2 mois. C'est terminé.
J'avoue que c'est un peu désespérant d'entendre ça. Mais il y a un autre exemple qui illustre parfaitement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le trading à haute fréquence. Et là, pour donner une image, c'est un peu comme si on avait confié nos vies à des voitures autonomes sans frein.
À quoi est lié, on ne le rappelle pas souvent, mais le développement du trading à haute fréquence, c'est-à-dire ces ordinateurs superpuissants qui passent des milliers d'ordres dans la milliseconde et qui en annulent, je ne raconte pas d'histoire, dans tous les cas, ils en annulent au moins 90% dans la milliseconde qui suit. Bon. Le trading à haute fréquence avait pour intérêt de détecter la plateforme où le prix était le plus intéressant. C'était une course de vitesse. Mais très vite, ce qui était utile est devenu un espèce de parasite sur les marchés, au point de représenter aujourd'hui la moitié des transactions de marché. En réalité, avec cette annulation massive des ordres, c'est une véritable manipulation de marché. Ce sont des ordinateurs qui essayent de détecter ce que pense la partie adverse, si vous voulez. Et donc, ce sont non seulement des parasites sur les marchés, qui n'ont aucune utilité sociale, mais en réalité, ça peut être très dangereux parce que c'est, comme on dit, procyclique, c'est-à-dire qu'ils suivent le marché. Et donc, en cas de crise financière majeure, on ne sait pas du tout ce qui va se passer du côté du trading haute fréquence. Quelle serait la solution ? Mesure toute simple, on le sait depuis 10 ans, mais on discute depuis 10 ans et on ne veut surtout pas la prendre, on n'a pas le courage. C'est de taxer les ordres annulés. Une parlementaire au Parlement européen avait même dit qu'on pourrait taxer d'un euro les ordres annulés. Une mesure toute simple, mais ça fait tomber tous les modèles économiques. Donc on ne veut surtout pas prendre cette mesure, voyez. On contourne l'obstacle.
On ne peut pas dire qu'on a vu venir la crise de 2008 malgré plusieurs avertissements. Quelques mois avant la panique qui a saisi le monde entier, un grand spécialiste promettait une explosion des marchés financiers. Il y a bien eu une explosion, mais pas celle qu'on pensait. Alors, est-ce qu'il existe des éléments qui nous permettraient de juger concrètement la situation, de nous faire un avis ? Il y en a, mais il faut aussi savoir qu'il suffit d'un grain de sable pour faire caler toute la machine.
Si je devais résumer les éléments objectifs qui font qu'on approche ou non d'une crise financière, quand on analyse les crises de l'histoire, celle de 1929, celle de 2007-2008, on voit qu'il y avait trois éléments en fait, qui étaient réunis. C'était d'une part une abondance de liquidités, c'est-à-dire de création monétaire. Vous savez, les banques créent de la monnaie quand elles consentent un crédit, mais les banques centrales créent aussi de la monnaie quand elles font des politiques. Je ne vais pas utiliser de vocabulaire trop technique, mais enfin ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire faire marcher la planche à billets. Bon. Donc ça, c'est très grave. Il y a deuxièmement une dette qui est trop importante. Et de ce point de vue, moi je voudrais bien préciser que les crises financières éclatent, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, dans la quasi-totalité des cas, du fait de la dette, d'un excès de dette privée, et non pas d'un excès de dette publique. C'est ce qui s'est passé en 2007, c'est ce qui s'était passé en 1921. Et le troisième élément, donc vous voyez, création monétaire excessive, une dette excessive, et le troisième élément, c'est une régulation financière excessive. On a fait tomber toutes les règles. Dans les années 80, 90, 2000, à l'époque, toute l'administration Clinton s'est battue pour surtout ne pas encadrer l'innovation financière. L'innovation financière continue à se développer depuis 2008 d'une manière très importante. Donc vous voyez, le régulateur a toujours un temps de retard en fait sur l'évolution de la finance. Et c'est ça donc qui est très préoccupant. Vous savez, de nombreux économistes depuis un siècle ont montré comment la finance pouvait déséquilibrer l'économie. Si quelques étudiants m'écoutent, je rappelle quelques noms. Keynes lui-même, Irving Fisher, au lendemain de la crise de 1929, et beaucoup d'autres après, dans la période récente, Steve Keen, Maurice Allais, le prix Nobel d'économie française, Jacques Rueff. Bon. Donc voilà, c'est quelque chose qui se constate dans l'histoire économique, c'est que lorsque la finance est excessive, elle déséquilibre l'économie et que le coût est extrêmement élevé ensuite.
Pour pallier à la crise des subprimes, les banques centrales ont injecté beaucoup d'argent pour soutenir l'économie. Le problème est de savoir où va cet argent et surtout s'il va là où on peut en avoir besoin.
Alors, toute cette création de monnaie, qui est faite depuis la crise de 2008, est tout à fait en excès par rapport aux besoins de l'économie réelle. Nombre d'économistes nous disent que la croissance, et on le voit bien en tout cas dans les chiffres du FMI, la croissance est ralentie depuis la dernière crise de 2008. Elle progresse beaucoup moins vite pour des raisons à la fois structurelles et peut-être conjoncturelles. Donc, les besoins de l'économie sont plus faibles. Le système est fragilisé quand il y a trop de création monétaire. Cette création monétaire, elle va vers la finance, c'est-à-dire que la finance vit un peu sur elle-même. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans les excès des marchés financiers, c'est ce qu'on retrouve dans les encours de produits dérivés, dans fonds spéculatifs dont les montants aujourd'hui dépassent 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire des montants très supérieurs à ceux qui étaient atteints au moment de la crise de 2008. Voilà, on n'a pas l'économie marchait très bien dans les années 60, hein, avec des taux de croissance beaucoup plus élevés. Il n'y avait pas toute cette bulle financière autour qui était un problème de risque majeur. C'est comme si vous aviez une nappe de gaz au-dessus de l'économie réelle et que le premier incident va mettre le feu à l'ensemble. Hein. C'est le risque que nous avons.
Ok, donc je résume. Si on regarde les choses d'une manière lucide, il y a peu de chances d'échapper à une nouvelle crise. Reste à savoir si on pourra s'en relever. Difficile de prédire précisément ce qu'il va se passer sans boule de cristal. Mais ce que Jean-Michel Nolot nous explique, c'est que nous n'avons pas mis toutes les chances de notre côté. Nous avons renforcé les digues, mais nous n'avons aucune idée de la force de la tempête qui nous frappera.
On a réussi à sortir de la crise de 2008. En tout cas, on a eu le sentiment de sortir de la crise de 2008 parce qu'on a relancé la dépense publique et parce qu'on a maintenu la politique monétaire qui s'est transformée en véritable morphine pour donner confiance aux investisseurs. Le grand problème demain, c'est que quels instruments pourra-t-on utiliser en cas de crise pour redonner confiance aux investisseurs ? C'est le métier d'une banque centrale d'intervenir quand la confiance disparaît pour refaire vivre l'activité économique. Quand les taux sont à zéro, comment est-ce qu'on fait ? Taux négatif, ça résout rien du tout, ça complique même le problème. Les dépenses publiques, comment est-ce qu'on peut relancer demain la dépense publique alors qu'on a une dette qui est astronomique ? Et le grand risque, à mon avis, qu'on a dans la prochaine crise, c'est que tout d'un coup, les investisseurs vont prendre conscience de cette dette privée et publique historique. Au total, quand on ajoute les deux, c'est 3 fois le PIB mondial, quoi. C'est historique, hein. Donc ça peut être terrible. Ce qui peut nous menacer, c'est des défauts de paiement, à la fois d'entreprises, d'acteurs financiers et peut-être même de certains pays. C'est ça qui est terrible. Quand il y a une euphorie financière, les investisseurs oublient complètement la dette. Mais c'est ça qui a été dramatique au lendemain de la crise de 29. C'est le fait qu'à l'époque, c'est la dette privée qui était très... Il n'y avait pas de dette publique, hein, mais la dette privée était très... Ou très peu de dette publique. La dette privée était très importante et que ça a été extrêmement difficile de relancer la machine parce que les investisseurs ont brutalement pris conscience de cette dette. Vous savez, en Europe... La Commission européenne nous parle régulièrement de problèmes de la gestion de la dette publique, mais elle devrait aussi s'intéresser à la dette privée. Des pays comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège ont une dette privée des ménages extrêmement élevée. À l'étranger, les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, mais le Canada est une dette des ménages très élevée, l'Australie. Donc, c'est souvent par là que les crises arrivent aussi. Hein. Donc voilà, je pense qu'un point positif tout de même, parce qu'il ne faut pas voir que les dangers, les risques, bon, c'est que les fonds propres des banques, ce qui leur permet, les fonds propres, c'est ce qui leur permet de faire face à des pertes. Ils ont été renforcés depuis la dernière crise. Cela étant, ils ne sont pas encore au niveau où ils étaient dans les années 90. Hein. On fait mieux, mais il reste beaucoup à faire. Hein.
Et n'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'actualité, une seule adresse, david@binge.audio.
Binge Audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.